De toutes les messes que nous célébrons sans fidèles, celle du dimanche est pour moi la plus pénible. J'espère ne choquer personne en disant cela. Ce n'est pas de célébrer la messe qui est pénible. Ce qui le devient, c'est de le faire sans assemblée, sans perception immédiate de l'ecclésia. Encore n'ai-je pas à me plaindre. Célébrer à deux ou à trois prêtres n'a rien à voir avec le fait de célébrer complètement seul. On se répond, on prie ensemble, bref, on concélèbre. Sans compter qu'on a la joie aussi de partager de manière plus informelle et sans doute plus libre que d'habitude sur les textes de la liturgie. Compte tenu de ces difficultés dominicales, j'ai apprécié d'entendre Mgr Éric de Moulin-Beaufort dire qu'une lettre apostolique de Jean-Paul II consacrée au dimanche l'avait particulièrement nourri en cette période de confinement. Son interview donnée le 1er mai sur Radio Notre-Dame était centrée sur la décision du Premier ministre de n'autoriser de messe avec fidèles qu'à compter du 2 juin, mais il a partagé avoir été nourri ces derniers temps par cette lettre apostolique sur la sanctification du dimanche, écrite par le pape Jean-Paul II en 1998. J'avoue que je ne connaissais pas cette lettre, et sa lecture aide bien à redécouvrir le dimanche comme jour saint, même quand nous sommes confinés. Je vous invite à lire ce texte, disponible sur le site internet du Saint-Siège, et je vous en donne quelques lignes force. La lettre est construite en 5 chapitres. Je ne consacre ce petit mot qu'au 3e chapitre intitulé « L'Assemblée eucharistique, cœur du dimanche » et même seulement à 3 points de ce chapitre. Je vous donne tout de même le titre des autres pour donner déjà de la matière à ceux qui auraient envie d'aller plus loin. 5 chapitres d'autres. La célébration de l'œuvre du Créateur, le jour du Seigneur ressuscité et du don de l'Esprit, l'Assemblée eucharistique cœur du dimanche, le dimanche jour de joie, de repos et de solidarité, le dimanche fête primordiale révélant le sens du temps. Concentrons-nous sur le 3e chapitre, l'Assemblée eucharistique cœur du dimanche, et plus particulièrement sur 3 idées de ce chapitre. Ceci afin que nous nous préparions, puisque ce temps est enfin assez proche où nous célébrerons la messe en assemblée, quel qu'en soit le nombre, que nous nous préparions donc à vivre autrement, à vivre mieux ces assemblées à venir. Au numéro 31 de cette lettre, saint Jean-Paul II réfléchit à la présence du ressuscité au cœur de nos assemblées eucharistiques. Le dimanche, dit-il, n'est pas seulement le souvenir d'un événement passé. Il est la célébration de la présence vivante du ressuscité au milieu des siens. Pour que cette présence soit annoncée et vécue comme il convient, il ne suffit pas que les disciples du Christ prient individuellement et fassent mémoire intérieurement dans le secret de leur cœur de la mort et de la résurrection du Christ. En effet, ceux qui ont reçu la grâce du baptême n'ont pas été sauvés seulement à titre individuel, mais comme membres du corps mystique qui font partie du peuple de Dieu. Il est donc important qu'ils se réunissent pour exprimer pleinement l'identité même de l'Église, l'Ecclésia, l'Assemblée convoquée par le Seigneur ressuscité, lui qui a offert sa vie afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Ils sont devenus un dans le Christ par le don de l'Esprit. Cette unité se manifeste extérieurement lorsque les chrétiens se réunissent. Ils prennent alors vivement conscience d'être le peuple des rachetés, composé d'hommes de toute race, langue, peuple et nation, et ils en témoignent devant le monde. Dans l'assemblée des disciples du Christ se prolonge dans le temps l'image de la première communauté chrétienne que Luc a voulu décrire de manière exemplaire dans les Actes des apôtres, lorsqu'il écrit que les premiers baptisés se montraient assidus à l'enseignement des apôtres, fidèles à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Cette dernière invitation me parle fortement. Notre-Dame du Rosaire n'est ni Saint-Pierre de Montrouge, ni Saint-Dominique, ni Notre-Dame du Travail. Notre communauté, et bien sûr son assemblée dominicale, a son identité propre, qui n'est pas celle d'autres communautés paroissiales du diocèse ou encore de notre pays. Au-delà, les différences culturelles aidant, nous sommes ici ou là bien différents de ce qui se vit dans une de ces communautés très nombreuses qu'on trouve dans certaines églises d'Asie ou dans d'autres, très peu nombreuses celles-là, d'archipels isolés ou de contrées très éloignées des centres urbains. Puissions-nous nous désintéresser des différences de sensibilité, surtout si c'est pour nous enorgueillir de ce que nous sommes, et prendre conscience que ces dissemblances ne pèsent rien devant ce qui nous est à tous commun, c'est-à-dire la présence du Christ ressuscité au cœur de ces assemblées. Puissions-nous désirer retrouver la fraîcheur de la toute première communauté décrite par saint Luc et mentionnée par Jean-Paul II. Puissions-nous surtout la retrouver effectivement, cette fraîcheur. Au numéro 44 de sa lettre apostolique, c'est le deuxième point que je voulais souligner, Jean-Paul II réfléchit au lien entre repas pascal et rencontre fraternelle. Il invite à prendre pleinement conscience de ce que la communion avec le Christ est profondément liée à la communion fraternelle. Le rassemblement eucharistique dominical est un événement fraternel que la célébration doit bien mettre en évidence tout en respectant le style propre de l'action liturgique. Le service d'accueil et le ton de la prière, attentive aux besoins de toute la communauté, contribuent à cela. L'échange du signe de la paix, placé par le rite romain de manière significative avant la communion eucharistique, est un geste particulièrement fort que les fidèles sont invités à faire comme expression de l'engagement à l'amour mutuel que l'on prend en participant au pain unique dans le souvenir de la parole exigeante du Christ. Quand donc tu présentes ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis reviens et alors présente ton offrande. Il est si triste d'être présent à la messe avec des personnes qu'on a éliminées de nos cercles. Il est si contraire à la parole du Seigneur de ne pas, si ce n'est se réconcilier, au moins poser le premier geste, fût-il infime, d'une série d'autres gestes qui conduiront un jour à la réconciliation. Il est tellement incohérent de sortir de la messe et de se régaler de telle ou telle parole malveillante à l'endroit d'une personne qui vient de constituer avec moi, dans la même assemblée, l'Église du Christ. Oui, vraiment, nous devons revenir à la messe le dimanche avec des dispositions d'esprit et de prière qui nous aident à progresser sur tous ces points. Toujours dans ce troisième chapitre intitulé « L'Assemblée eucharistique, cœur du dimanche », Jean-Paul II réfléchit encore, et ce sera le dernier point que j'évoquerai, au lien entre la messe et la mission. Pour le fidèle qui a compris la signification de ce qu'il a accompli, écrit le pape, la célébration eucharistique ne peut pas épuiser tout son sens à l'intérieur du sanctuaire. Comme les premiers témoins de la résurrection, les chrétiens convoqués tous les dimanches pour vivre et proclamer la présence du ressuscité sont appelés à se faire dans leur vie quotidienne évangélisateurs et témoins. Après la dispersion de l'assemblée, le disciple du Christ retourne dans son milieu habituel avec le devoir de faire de toute sa vie un don, un sacrifice spirituel agréable à Dieu. Il se sent débiteur envers ses frères de ce qu'il a reçu dans la célébration, tout comme les disciples d'Emmaüs qui, après avoir reconnu à la fraction du pain le Christ ressuscité, éprouvèrent aussitôt le besoin d'aller partager avec leurs frères la joie de leur rencontre avec le Seigneur. Les disciples d'Emmaüs, justement, ceux qui servent de fondement, d'assise à notre thème d'année pastorale. Vous avez peut-être remarqué qu'un de mes dadas, une de mes idées récurrentes en homélie, consiste à nous rappeler que nous ne sommes que des transmetteurs de ce que nous avons reçu du Seigneur et de nos frères. Nous sommes autant de maillons d'une chaîne, autant de réflecteurs d'une lumière qui ne vient pas de nous et que nous devons redistribuer après l'avoir reçue. Les mots de Jean-Paul II sont autrement plus forts. Soyons, oui, soyons vraiment débiteurs envers nos frères de ce que nous avons reçu dans ces célébrations, qu'il nous tarde de célébrer à nouveau ensemble, et au cours desquelles, j'en suis sûr, le Seigneur fera brûler nos cœurs comme brûlèrent autrefois ceux des disciples d'Emmaüs. Je nous le souhaite et le demande au Seigneur. À tous, bon et saint dimanche.